Émission spéciale du 55e congrès ICEM, pédagogie Freinet à Bétheny.
Nous sommes ensemble aujourd'hui au congrès ICEM de Bétheny. Nous vous proposons de découvrir des extraits d'interviews et de reportages enregistrés hier, mardi 17 août.
Le congrès est un lieu de formation et de communication pour les enseignants exerçant en pédagogie Freinet, et ce, de la maternelle à la fac.
400 participants de France et de nombreux autres pays sont présents au congrès. Nous avons rencontré, pour une interview impromptue, des membres du secteur international, la FIMEM, Fédération internationale du mouvement de l'école moderne, venue d'Outre-Quiévrin.
Pierre Stassard, échevin de l'instruction publique de la ville de Liège, ce qui veut dire adjoint au maire en charge des écoles.
Moi, je m'appelle Olivier Debal et je suis directeur d'une école Freinet à Liège.
Donc moi je suis Jacques Warnier, j'ai fait toute ma carrière dans les écoles Freinet pratiquement, j'étais de la deuxième équipe de la première école. Donc la première école fondée en 1985, après deux ans était complète. Ils ont créé à ce moment-là une seconde école qui est dans le quartier du Laveu et la première équipe est allée là-bas. Et moi je suis arrivé à ce moment-là dans l'école d'Agnol, elle s'appelle l'école d'Agnol. Et puis comme je vieillissais, je suis devenu directeur. Et puis maintenant, je suis chargé de mission à l'instruction publique parce que j'ai une petite particularité, c'est que je parle encore le wallon, qui est le dialecte chez nous, et que la ville de Liège est très aussi dynamique dans ce domaine-là, dans le fait de le maintenir. Donc je fais ça, mais j'ai gardé les gènes frénétiques et je continue à suivre les équipes.
Au contraire du ministre Blanquer, nous soutenons les langues endogènes.
On est aujourd'hui à Bétheny, à côté de Reims, donc oui. Pour le 55e congrès ICEM Freinet. Déjà, pourquoi être venu jusque chez nous, même si on n'est pas si loin que ça de Liège? Qu'est-ce que ça vous apporte de vous rendre au congrès?
D'abord, on n'est pas si loin, mais à Angers ou à Grenoble, je suis venu aussi. Donc, ce que ça apporte, c'est un ressourcement. On retrouve toutes les raisons qui font que il faut faire de la pédagogie Freinet. Et donc, pendant l'année, malgré tout, il y a une routine qui s'installe toujours. Donc, c'est un ressourcement au bout de deux ans. Et toujours, de nouvelles idées vont être trouvées qu'on n'avait pas imaginées.
Pour les auditeurs et auditrices français et françaises, comment s'est implantée la pédagogie Freinet en Belgique? Quelle est son histoire? Est-ce que c'est une histoire très parallèle à l'histoire française ou est-ce qu'il y a des différences, des particularités?
Un parallèle, c'est qu'il y a de la pédagogie Freinet en Flandre, il y en a aussi à Bruxelles et il y en a à Liège qui se sont développés séparément. Et c'est logique parce que le Freinet, ça ne se décrète pas. Donc à Liège, au départ, ce sont des parents qui étaient allés voir mon prédécesseur d'il y a pas mal d'années parce qu'ils voulaient une école avec pédagogie Freinet. Et évidemment, il fallait qu'il y ait des enseignants volontaires. Il y en a eu. C'est là que la première école est née. Mais depuis, la ville de Liège, ce qu'on appelle les chevillins, le département qui est en charge des écoles, a accompagné les démarches. Et il y a eu une reproduction dans plusieurs écoles où soit des parents, soit plus souvent des membres de l'équipe éducative voulaient faire un nouveau projet. Et alors, ils venaient le proposer et on le validait. Il est arrivé aussi qu'on arrive à trouver un bâtiment et qu'on voit après l'équipe ce qu'elle voulait faire comme projet, sans dire que ce serait du Freinet au départ. Et finalement, c'est le projet Freinet qui a recueilli le plus de motivation. Donc, on en est à un moment où quasiment un quart des écoles de la ville, des écoles primaires de la ville, sont en première maternelle sans pédagogie Freinet.
Mais ça s'est fait. Un quart?
Oui, ça s'est fait spontanément. Oui, on est à 10 écoles sur 44, oui. Donc, oui, à peu près un quart. Mais ça s'est fait au départ d'équipes qui le voulaient. Donc, ça ne doit pas se décréter.
Et est-ce que c'est en constante augmentation?
Oui, oh, ça oui. Moi, mon souci, c'est de trouver des nouveaux locaux. Et donc, je suis heureux.
Ça va de pair avec la multiplication des écoles aussi, des ouvertures de classes ou
Oui, parce qu'en fait, il y avait eu autrefois pas mal d'écoles qui avaient fermé. À Liège, je voyais d'ailleurs au tout début l'inspecteur général qui nous rappelait la courbe ancienne. en disant attention, soyez modeste. Bon. Et bon, comme on a créé 8 écoles en tout, pas toutes freinées, mais. Non, c'est positif. Mais surtout, ce que nous avons pu trouver d'intéressant, c'est qu'on a quitté le monoculturel freiné, qui était au départ, malheureusement, parce qu'il faut qu'il y ait des volontaires quand on part de zéro et qu'on doit tout faire. On est dans du monoculturel et on n'en est plus là. On a des écoles où on a à la fois des parents qui viennent de plus loin parce qu'ils veulent une pédagogie freinée et en même temps les enfants du quartier qui ont le bénéfice de la pédagogie freinée qui vient à eux. Et donc, on sort de la discrimination par quartier parce qu'on peut très bien avoir une école freinée partout où l'on vit. On ne doit pas faire une énorme distance. On a toujours ceux qui viennent de plus loin qui ont une grande motivation et justement le contact... si j'ose dire quasiment interculturel, entre le groupe qui vient pour le freiner et le groupe qui reçoit, si j'ose dire, le freiner parce que l'école est freinée, ce contact vraiment est positif pour les deux.
Alors excusez ma question un peu naïve, mais là vous parlez d'élèves qui choisissent de venir, d'autres qui sont du quartier. Ça veut dire qu'il n'y a pas de question de carte scolaire? Comment ça fonctionne?
Non,
parce que les parents français, soit ils sont dans le public et ils sont accrochés à une école, soit ils partent dans le privé.
Oui, soit ils ont les moyens de se payer une seconde résidence et comme ça ils ont... l'enfant à l'école là où ils ont envie parce qu'ils sont riches assez, hein,
oui,
malheureusement. Donc on n'a pas de carte scolaire pour l'enseignement maternel et primaire. Donc ça veut dire qu'on peut aller où on veut. Vraiment, c'est sans limite pour cela. Pour le secondaire, donc pour la première année de collège chez vous, là par contre, il n'y a pas une carte scolaire, mais il y a un mécanisme, un algorithme. Quelle horreur. Un algorithme qui va... dire si vous avez droit d'être prioritaire dans telle ou telle école, et il est fondé sur la distance en grande partie. Et donc là, ça casse. Il y a vraiment un problème de carte scolaire qui est apparu en Belgique aussi, mais pas pour l'enseignement maternel et primaire. Donc là, les parents sont libres, mais beaucoup de parents veulent quand même aller à l'école de leur quartier. Et donc, ce qu'il y a de bien, c'est que spontanément, il y a quand même une certaine répartition un peu au hasard dans la ville qui fait qu'il n'y a pas une excessive concentration d'écoles freinées dans des quartiers qui seraient plus privilégiés. Et ça, c'est un avantage. À la Fondation, bah, c'était quand même dans le quartier, comment dirais-je, qu'il y avait le plus une typologie un peu alter-gauche, ouverte, plus écologique, avec des parents aussi qui avaient les moyens. Mais ça, ces fondateurs-là, on leur doit toute la suite. Parce que c'est parce qu'on a soulevé ce verrou qu'on a pu ensuite développer un tel projet. Partout.
Des projets, du coup, pour 2022, ou même plus loin, à part trouver des nouveaux locaux, qui a l'air d'être une problématique?
Malheureusement, c'est une mauvaise année pour me poser la question, parce qu'on vient de connaître des inondations terribles à Liège, et donc c'est des écoles qui sont vraiment dans un état terrible. Et pour le moment, je cours, à vrai dire, après les moyens de réparer les écoles endommagées, tout en trouvant les moyens d'accueillir les nouveaux élèves dans les autres. Donc, je ne suis malheureusement pas cette année dans une réflexion pédagogique, mais je pense qu'il faut donner la parole au reste de l'équipe.
Des projets d'école, quoi. C'est vrai que nous, on est la dernière école qui vient d'être créée. Donc, on a ouvert en 2018. Et donc, là aussi, on nous a reconstruit un nouveau bâtiment parce qu'on est à l'étroit et que voilà, on arrive déjà à plus de 200 élèves et que de nouveau, on est dans une dynamique où on cherche des places aussi pour tous les élèves parce qu'on n'en trouve pas parce qu'il y a une réelle demande de la part, comme on le disait tout à l'heure, et des enfants du quartier et des enfants qui viennent pour le projet pédagogique.
Il y a un tel succès que dans certaines écoles, on est obligé de mettre quelque chose de plus honnêtement possible, une espèce de liste d'attente, parce qu'il y a trop de demandes par rapport à une école. Alors la multiplication, évidemment, des écoles sur le territoire d'une ville permet quand même de dispatcher un petit peu, mais par moments, c'est un peu lourd à gérer pour les directions. Et en même temps, c'est extrêmement positif, évidemment, de voir à quel point ça fonctionne.
Et alors, comment est assurée la formation des enseignants ?
Donc, en fait, il y a la formation de base à l'école normale, comme pour toutes les écoles. Mais parallèlement à ça, pour travailler dans une école Freinet, il y a une action volontariste qui est demandée, qui est de suivre une formation continuée supplémentaire pendant une année. Donc les enseignants suivent une formation complémentaire et passent devant une commission, en fait, qui n'est pas une commission qui remet en question leur diplôme d'instituteur, bien entendu, mais qui met bien en relation leur pratique avec la pédagogie Freinet. Donc voilà, ce sont les deux conditions, pas pour des cours d'intérim, mais quand il s'agit d'emplois à plus longue durée, à plus longue échéance, si on veut travailler vraiment dans une des écoles Freinet de la ville de Liège, il faut passer ces deux étapes.
Moi, je n'en suis pas membre. Séparation des pouvoirs.
Alors, à nouveau, une question peut-être naïve, mais donc on parle d'une première école vers 85. À Liège, un quart des écoles en Freinet.
Oui.
Je pense que les Français se disent « Waouh !»
Oui, on va 6 ans,
comment expliquer cette réussite, avec peut-être tous les guillemets qu'il faut, mais en tout cas, cette évolution.
Mais justement, il y a la formation des enseignants qui, du coup, non seulement découvrent, mais approfondissent, et certains d'entre eux, alors, auront eux-mêmes le projet de travailler dans une école Freinet, mais une autre, où on reprend le projet depuis le début. Et d'ailleurs, il y a des directeurs, même enfin, il y en a un ici à côté de moi, qui était directeur, bien installé, dans une très grande, très nombreuse école Freinet, qui a fondé une autre. Malheureusement, elle est remplie aussi, donc ça ne règle pas tous les problèmes. Mais ce côté-là, il réapparaît. Donc, ils veulent revivre le projet. Et créer une école, c'est quelque chose de rare. Et pourtant, beaucoup le font. Et alors, dès qu'un projet se crée, il y a des enseignants qui demandent à changer d'école pour faire le nouveau projet. Et là-dessus, il y a un appel d'air qui permet d'avoir des nouveaux enseignants qui arrivent dans une équipe qui va pouvoir les encadrer. Et donc, ça permet de ne pas tout reprendre à zéro, de pouvoir utiliser les expériences que d'autres ont faites, tout en faisant les siennes propres. Par-dessus le marché. Je crois que c'est ça la réponse à votre question.
Oui, je peux peut-être ajouter que c'est le pouvoir communal, c'est la ville de Liège qui organise ça. Si on regarde au niveau des écoles qui dépensent directement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ben là, il n'y a pas beaucoup plus qu'en France, je veux dire, par rapport à... C'est vraiment une action volontariste de la ville, quoi. J'ai pas dit de bêtises, hein, chef.
Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça reste aussi un projet de gauche. Alors, il se fait que... Bon, les coalitions ont pu changer par rapport à la première. Mais jamais le partenaire n'a remis en cause le projet. Et moi-même et mes prédécesseurs, nous avons toujours eu tout le collège communal, finalement, qui... soutenait. En tout cas, tant que c'était pour les écoles fondamentales, je n'ai jamais eu à me plaindre. Le secondaire, etc., c'est autre chose.
Cette envie d'essaimer et de se lancer dans de nouvelles aventures, c'est effectivement ça ?
Oui, en partie. Et puis je pense que c'est aussi... Sauf qu'il y a une réelle dynamique dans nos écoles Freinet à Liège qui me porte, et je pense que ça porte vraiment nos équipes. C'est une volonté, on a chaque année des formations volontaires, mais la ville a fait le choix de dire que ben voilà, on allait tous suivre certaines formations avec ben, on a Marcel et Daniel Torel qui viennent organiser des formations à Liège, et donc tout le monde parle le même langage dans toutes les écoles. On parle de, ben, quand on parle de texte libre, que ce soit dans mon école ou dans une des 9 autres écoles de la ville, on parle de la même chose. Alors ça se fait fatalement d'un enseignant à l'autre, d'une école à l'autre, peut-être un petit peu différemment. Mais en tout cas, il y a cette envie de partage, de pratique, etc., qui commence vraiment à prendre de l'ampleur. On a créé une SBL pour soutenir justement... pour soutenir bah, toutes ces formations, des conférences, etc. Et donc, voilà, on sent vraiment que bah, tout le monde est un peu dans la même barque et qu'on a envie que les choses avancent. On n'a pas envie que ces formations soient one shot et puis qu'après, bah, les choses s'étiolent un petit peu. Donc, il y a vraiment cette volonté de maintenir ça dans le long terme.
C'est que je pense que c'est plusieurs barques, mais qu'on essaye d'échanger nos pratiques pour souquer ensemble.
Vous êtes enseignantes toutes deux ?
Oui.
Alors, comment on devient une enseignante freinet à Liège, donc ?
Oui, bah moi, j'étais en freinet déjà étant plus jeune. Donc, voilà, je voulais vraiment rester dans cette barque. Et puis, j'ai fait plusieurs écoles freinet. Et voilà, c'est à chaque fois la même chose. La cohésion d'équipe, on travaille ensemble, on s'aide, personne ne se moque, on se plante, on se relève ensemble. Et voilà. Donc, j'ai vraiment envie de travailler dans ces écoles-là. C'est difficile hein, de trouver sa place, mais...
C'est difficile au point de vue travail coopératif ou...
Non, c'est pas parce que ça s'est bien passé une année dans une école qu'on est forcément reprise l'année d'après. Et du coup, c'est souvent des... Je sais pas, je le ressens des fois comme des échecs, alors que j'ai rien à voir là-dedans, mais... Voilà, j'ai envie de continuer un projet avec mon équipe, avec qui ça se passait bien. Et puis ça s'arrête quoi, en juin et il faut recommencer tout l'année d'après dans une autre école.
C'est la difficulté des jeunes enseignants qui peuvent parfois tomber dans une école freinet, mais qui ne sont pas spécialement reconduits l'année suivante dans la même école, ni même dans une école freinet au début.
Et ça, donc voilà, ça c'est... Appliquer c'est un les règles du gouvernement,
ouais, tout à fait.
Mais... On est quand même allé plus loin, de ne pas se contenter d'être des acteurs passifs. On a négocié avec les organisations représentatives des travailleurs, donc avec les organisations syndicales, des protocoles qui permettent que les enseignants qui ont eu la formation freinet puissent enseigner et désigner préférentiellement dans une école freinet. Et ça, vraiment, c'est, je pense, c'est important. Donc, la formation n'est pas perdue. Alors, tous les enseignants en début de carrière, oui, ils tournent un peu, et comme ça, ils ont une expérience plus grande. Et donc, ce que nous avons essayé de faire avec l'accord des organisations syndicales, c'est de pouvoir stabiliser ceux qui veulent vraiment faire du freinet, qui ont pris goût, qui sont formés, les stabiliser alors dans des écoles freinées. Et ça, on l'a obtenu et le gouvernement ne nous a pas ennuyé là-dessus, donc c'est tant mieux. Mais le début de carrière, oui, on doit bouger, on passe d'une école à l'autre, c'est comme ça. Mais c'est déstabilisant, mais sur le long terme, il y a quand même des expériences positives. Avoir vu plusieurs écoles, c'est mieux que de n'en faire qu'une seule. Et de toute façon, on est dans la logique du freinet, parce qu'il n'a pas arrêté de refaire un nouveau projet d'école dans toute sa vie.
C'est profondément différent, effectivement, dans les écoles freinet de France, parce que c'est le problème, justement, de la reconduction d'école. Dès que le groupe qui a formé le projet pédagogie freinet dans une école... Son problème de renouvellement est posé. Et il est posé parce que, d'abord, il n'y a pas d'appel. En France, il n'y a pas d'appel sur une école freinet, hein, sur un projet. Alors, bien sûr, l'administration nous dit, de toute façon, quand on postule dans une école, on s'engage à ne pas détruire le projet d'école. Mais finalement, ça n'a aucun sens parce que l'administration ne tient pas compte du projet d'école. Tandis qu'à Liège, c'est le projet d'école est fondamental. Ouais. Et c'est chouette parce que là, on parlait tout à l'heure, on est bientôt 200. Eh bien, à la rigueur, il peut y avoir un directeur qui se dégage, une nouvelle équipe qui se dégage, et là, une nouvelle école qui se crée. Et ben, tandis qu'en France, on ne peut pas avoir ça. Hein. Tous les exemples, Aix-en-Provence, Caen et Brest, Bruges-le-Sec, automatiquement, au bout de 10 ans, l'école meurt. Et tout ce qui a été réalisé par rapport, justement, à ce que je disais tout à l'heure, l'apport des enfants de l'extérieur, on va appeler ça hors périmètre scolaire, et des enfants du village, eh bien, disparaît, et tout le bénéfice de l'éducation populaire sur ce groupe, il disparaît également. Et c'est une façon de tuer, pour moi, c'est une façon de tuer l'éducation populaire.
Et d'ailleurs, chez nous, maintenant, la nomination des directeurs dans les écoles se fait sur base de présentation d'un projet pédagogique. Et donc, c'est important parce que ça veut dire que, je dirais, l'identité d'une école, si voilà, moi je m'en vais et qu'il y a un autre directeur qui arrive, c'est le pouvoir organisateur qui pourra dire, mais non, le projet, vous postulez, mais le projet que vous voulez mettre en place n'est pas le projet que la ville souhaite.
Oui, oui,
et donc, mon école, qui est une école Freinet, tant que, je veux dire, la volonté du pouvoir organisateur est qu'elle reste une école Freinet, restera une école Freinet,
voilà,
avec
ça.
Des particularités en oui. fonction du quartier, etc. Mais tout ça sera vraiment préservé. Je trouve que ça, c'est quelque chose d'important. C'est un des aspects positifs du nouveau décret des directeurs, en tout cas.
Oui, effectivement, nous établissons un profil de fonction qui correspond à un projet d'école. Ça ne veut pas dire qu'un directeur ne peut pas avoir fait des expériences ou des intérims ailleurs. Nous avons eu un cas récemment d'une enseignante Freinet qui avait envie d'un peu changer. Elle est devenue directrice dans une autre école qui n'était pas Freinet. Et puis, Nagno s'est libéré. C'était très gros à reprendre. Je lui ai dit, écoute, ce n'est pas un cadeau, crois-moi, mais moi, je pense que tu es prête. Donc, si tu veux l'avoir, et la postuler. Et fatalement, avec le profil qu'elle avait, c'était exactement ça. Et donc, on peut à la fois avoir le recrutement qui a la formation à tout point de vue et qui est parfaitement dans le respect du décret, non seulement dans sa lettre, mais dans son esprit même.
Mais c'est vraiment important parce que n'importe quel directeur qui arriverait dans une école avec la garantie de continuer ce projet-là, bah ça détruirait tout, comme
oui,
vous disiez tout à l'heure.
Il y a une intervenante qui n'a pas encore parlé.
Je ne sais pas ce que je vais dire. On veut bien un retour d'expérience.
Oui, mais moi je suis arrivée il y a un an à l'école du Beaumur. Sinon, j'ai enseigné pendant 4 ans dans l'enseignement ordinaire. Et c'est en arrivant à l'école du Beaumur que voilà, j'ai eu une révélation. Je me suis rendu compte que c'était ça qui me manquait dans ma pratique. Voilà, les techniques Freinet, c'est ça qui me manquait. Voilà.
Des attentes pour toutes les deux par rapport au congrès, de l'échange de pratiques, de
enrichir mes connaissances sur les pratiques.
Ouais, et je pensais pour les échanges, est-ce qu'il y a des échanges internationaux entre la Belgique et la France, entre les écoles Freinet de Belgique et les classes Freinet de France?
Ça, c'est un nouveau projet qu'on devrait mettre en place. Il y a des échanges entre enseignants, mais pas encore entre élèves.
Non, Jacques, tu as un projet. Vous avez parlé de Marcel.
Oui. Non, mais avec les interventions des époux Torel qui sont venus, qui sont venus chez nous donner un coup de main et peut-être rappeler certaines choses, parce que quand un projet, après quelques années, est en place, il y a des dérives qui s'installent. Donc, après quelques années, Marcel et son épouse sont venus nous aider. Donc, ça nous a mis en contact avec Jean-Marc Guéret, avec beaucoup de gens comme ça. Et alors là, il y a des échanges parfois. Mais directement d'école à école, il y en a eu de manière un peu ponctuelle, mais pas de manière institutionnalisée. Mais on est quand même en contact avec des gens du mouvement Freinet français, ça c'est clair. Parfois plus même qu'avec le mouvement Freinet belge.
Non, il définit une réalité. Moi, il y a 2 ans, je me suis rendu compte, parce qu'on était dans un groupe où on faisait un peu de l'échange plus institutionnel, qu'il y avait 20 ans et plus, enfin avant que moi je sois là, il y avait eu des divergences pédagogiques majeures, ils ne se sont plus parlé pendant longtemps. Donc ça, c'est triste. Il ne faut pas que ça arrive. C'est bien de se trouver pour justement échanger et éviter de se quitter sur des divergences pédagogiques qui vous conduiraient à ne pas pouvoir profiter de la partie du travail de l'autre qui est compatible avec le vôtre.
Bien, merci beaucoup à vous.
Continuer cette émission spéciale sur Radio Primitive,
en presque direct du congrès de l'ICEM, Pédagogie Freinet, une interview de Patrick Laurenceau, qui animait l'atelier pratique instrumentale en classe, improvisation et composition musicale.
Alors, il s'agit d'un atelier où se trouve un ensemble d'instruments fabriqués par des enfants ou des adultes, des instruments plus classiques, beaucoup de... une majorité d'instruments qui ne sont pas dans le mode accordé, dans le mode tonal. Occidental, mode tonal occidental, mais il y en a quelques-uns. Et je propose des séances d'improvisation. Alors pourquoi l'improvisation ? Parce que en fait, c'est la seule activité qui permet à n'importe qu'il ait fait le conservatoire ou pas. D'ailleurs, en général, ceux qui ont fait le conservatoire sont plus embêtés, d'entrer dans le monde sonore en essayant de jouer sur un instrument qu'il choisit. Alors, en général, la séance commence par une découverte personnelle des différents instruments. Ensuite, on en choisit un. Et puis, en petit groupe, on va se lancer dans une expression sonore collective, mais spontané, improvisé. Et puis, on partira du silence, on arrêtera au silence. Alors là, se joue, en fait, une aventure sonore dont on ne connaît pas, au départ, la composition. Donc, on va émettre des nuages sonores à partir de ce que les uns et les autres produisent. Alors bien entendu, ce qui est demandé à l'acteur musicien, à l'actrice musicienne, c'est tout en jouant, d'essayer de bien entendre ce que les autres jouent. Et ça, c'est le plus difficile. Et ce n'est qu'après bien des improvisations qu'on finit par faire... par être à la fois acteur et écouteur, auditeur. Donc voilà. Et alors c'est une bonne manière de faire entrer tout le monde dans le monde sonore, d'autant qu'après on discute de ce qu'on a fait, et dans la discussion vont apparaître à la fois des problèmes de dynamique de groupe, hein, mais aussi vont surgir des paramètres musicaux. Par exemple, si... quelqu'un joue sur un instrument à cordes comme l'ariel, là, ça fait penser au koto japonais, donc on joue sur des cordes, tape sur des cordes. Il est évident que quelqu'un qui se trouve aux percussions et qui joue fort, personne ne va l'entendre. Et donc, après discussion, à la fin d'une improvisation, où la musicienne qui est sur cet instrument, ou le musicien qui est sur cet instrument à cordes, dit « mais moi, j'ai pas réussi à m'entendre et puis j'ai pas réussi à rentrer dans le groupe », eh bien, on va se poser un paramètre tout à fait musical qui est la question de l'intensité. Voilà. Et donc, comment on fait pour respecter l'intensité, la possibilité de production sonore de tous les instruments qui doivent s'exprimer à un moment ou à un autre et se faire entendre. Voilà. Alors à partir de là, on peut aller vers la composition instrumentale. Alors on peut jouer, on peut faire des improvisations que vocales, que instrumentales, mais on peut faire aussi associer les deux. Hein? Alors les seules consignes que je donne au départ, c'est comme si on était dans une forêt qu'on ne connaît pas. Et on emprunte un chemin, et puis après un autre, etc. Et là, c'est la même chose. Mais ce que je demande, c'est qu'on ne discute pas entre soi. Parce que souvent, les enfants veulent discuter entre eux, quoi. interpelle l'autre en disant tiens, tu veux pas jouer avec moi, etc. Et surtout, on essaie de on essaie à certains moments de se dire bon, je me mets en retrait et j'écoute les autres. C'est-à-dire, on ne joue pas tout le temps. Voilà. Si on joue tout le temps, d'abord, ça peut devenir insupportable pour les autres. Et puis, on n'est plus en position d'écoute, quoi. On est pris par son instrument, on n'est plus. Voilà. Et donc après, par la suite, on peut modifier ce type de jeu d'improvisation. Par exemple, on peut demander, dans le groupe, il y en a deux qui commencent. Et puis ensuite, on se met d'accord, il y en a un autre ou trois autres qui vont continuer. Donc là, on commence à s'organiser un petit peu. On peut aussi enregistrer les improvisations et à l'écoute, se dire, tiens, cette partie-là est intéressante, on pourrait peut-être la rejouer, essayer de la rejouer, et à partir de là, on va essayer de développer ce morceau-là. Voilà. Il peut y avoir un chef d'orchestre qui donne la possibilité de jouer aux musiciens et musiciennes. Donc, il y a bien des façons de, à partir d'une improvisation collective libre, on peut ensuite essayer de se donner un peu plus de règles. Et dans ce cas-là, on va vers ce qu'on appelle la composition. Voilà.
D'accord.
Alors, si on défend l'improvisation dans notre secteur pratique sonore et musicale et dans le mouvement freiné depuis très longtemps, c'est parce que c'est remettre en cause la conception du musicien. En gros, il y a le compositeur, le maître compositeur, souvent d'ailleurs, peu de femmes sont reconnues, c'est surtout des hommes, et puis il y a les interprètes. On interprète une œuvre. Là, on crée par soi-même. Et c'est une démarche totalement différente. Et en plus, c'est ouvert à tout le monde. Alors, il faut savoir que, Bach, Mozart improvisaient énormément. Au XIXe siècle, on a supprimé l'improvisation. Et heureusement, au XXe siècle, c'est revenu, notamment avec le jazz, avec la musique contemporaine. Et on s'aperçoit que c'est une activité absolument nécessaire pour entrer dans le monde sonore quand on n'y est jamais entré, et deuxièmement, y compris pour alors après, on fait des choix, on peut aller vers la pratique de la musique tonale, et il n'y a que ça qui intéresse. Alors à ce moment-là, on va aller chercher des outils de formation qui vont permettre ça. Mais combien de musiciens, de gratteurs, de guitare, etc., ils ne sont pas passés par le conservatoire. Hein, ils ont pris une guitare et puis ils se sont mis à tâtonner dessus, puis ils ont fini par trouver des choses. Certains sont allés chercher la codification, d'autres, ils ont continué à jouer sans aucune codification. Après, on fait des choix. Mais au moins, parce que dans l'école, elle est là pour... elle n'est pas là pour faire des musiciens. Elle est là pour que les enfants, les adolescents pratiquent, découvrent le monde dans tous ses aspects. Et il y a un aspect qui est très important, c'est l'aspect sonore. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'organiserai un atelier de découverte de l'environnement sonore du lieu où on est là actuellement, essayer d'ouvrir ses oreilles, parce que si Claudel disait « l'œil écoute », quand on se promène, l'œil n'écoute pas. Et même l'œil peut...
assourdir.
Oui, assourdir, voilà. Et donc, comment découvrir un milieu sonore en ouvrant ses oreilles, voilà. Donc, je proposerai aussi ce type d'atelier.
D'accord.
Voilà.
Vous parlez là du sonore et pas que du musical. Et en fait, ça transparaît un peu dans les instruments que vous utilisez, parce qu'ils sont... un peu hétéroclite, oui. On dirait qu'ils ont été fabriqués par un improvisateur, par des enfants.
Par des enfants. Ça a été fait par des enfants. Ça, c'est.
Vous pourriez me les décrire un peu, parce que.
Oui. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un
xylophone. Ouais.
Donc en fait, ce sont des morceaux de bois. Ils ont découpé des morceaux de bois. Ils les ont posés sur des tasseaux transversaux. Et pour que ça sonne, entre les morceaux de bois sur lesquels on va taper et le tasseau, les tasseaux qui sont les supports, on met un caoutchouc, les bourrelets de fenêtres ou les choses comme ça, et on pose. Alors, comme il y a des nœuds de vibration, qu'il faut respecter, c'est à peu près le quart. À partir du bout, c'est le quart de la longueur du morceau de bois. Et donc, on les pose sur les caoutchoucs, on les pose sur les supports, on les pose à ces endroits-là. Et donc, ensuite, on tape. Hein. Donc, voilà, ça résonne très bien. On peut faire avec des ardoises, même principe. Avec des pierres, il y a des pierres qui sonnent, qu'on peut poser comme ça sur des supports. Mais bien entendu, il faut toujours qu'il y ait entre la pierre ou l'ardoise, les morceaux d'ardoise, et les supports, il faut toujours qu'il y ait ce caoutchouc, enfin ce bourrelet,
permet la vibration,
parce que sinon ça ne permet pas la vibration. Il y en a qui sont accordés, hein. Bon, là, le métallophone là-bas, il est accordé. C'est le même principe. Hein. Alors là, c'est un peu plus compliqué à faire, là, c'est des adultes. Par exemple, souvent les chantiers nous ramassaient sur les chantiers, ils laissaient des morceaux de ferraille. Eh bien, même chose, en les posant sur des supports comme les morceaux de bois ou l'ardoise, on les met et ça sonne très très bien. Hein. Donc voilà. Sinon, il y a avec des tubes. Ça, c'est les porte-serviettes de ma grand-mère que j'ai récupérées. Et donc, ça sonne aussi très très bien. Ou alors des tubes, hein, métalliques. Et on les suspend avec du fil de pêche. Hein, et ça sonne. Alors après, il y a cet instrument-là qui est un instrument freiné, inspiré du koto japonais. C'est un instrument qui est extrêmement intéressant. C'est un instrument à cordes et sous chaque corde, on met un chevalet qu'on peut déplacer. Alors l'intérêt, c'est qu'on peut créer son mode. On peut faire du quart de ton, de demi-ton, ce qu'on veut, le mode. C'est-à-dire qu'on peut y compris sortir du mode tonal occidental et aller vers d'autres modes, et puis inventer son mode. Et c'est un instrument c'est un instituteur du mouvement freiné, Paul Delbasti, qui avait fabriqué ça dans sa classe. Il lui a donné le nom d'Ariel, c'est le nom de son fils. Et après, ça s'est beaucoup développé dans le mouvement freiné parce que c'est un instrument vraiment qui est très très intéressant. C'est qu'on peut créer son mode. Hein, sur un xylophone, le mode il est déterminé, qu'il soit tonal ou pas tonal, il est déterminé. Tandis que là, on peut, en faisant glisser, hein, on peut. Voilà. Donc après, on crée ce qu'on veut. Hein, je ne sais pas ce que c'est, comment ça a été fait. Et ça sonne très très bien. Voilà. Les tambours à eau, hein, on peut faire ça avec des cuvettes. Alors là, j'ai amené des vrais tambours à eau avec des calebasses, mais on peut faire ça avec des cuvettes. Donc on prend une grande cuvette, on la remplit d'eau, puis on met une autre cuvette renversée sur l'eau. Et on peut jouer dessus. Alors ça, c'est des vrais tambours à eau, mais... Ça, c'est... Bon, voilà. On peut prendre des pots de fleurs. De différentes dimensions. Alors, je n'ai pas amené les instruments avant, parce qu'avec la pandémie, c'est compliqué. Donc, j'ai... mais sinon, on peut fabriquer ce qu'on appelle des flûtes harmoniques. On prend un tube et on met. Alors, on peut faire un embout avec un morceau de bois à l'intérieur. Enfin bon. Et puis, ou alors d'un vieux flutio trouver l'embout puis le mettre sur ce tube. Et l'intérêt de ces, ce qu'on appelle une flûte harmonique, c'est-à-dire il n'y a pas de trou sur le tube, c'est la, les hauteurs de son varient selon la puissance du souffle. Voilà. Bon, mais là, j'en ai pas amené parce que je ne peux pas amener des instruments avant. Donc voilà. Et puis après, on récolte aussi plein de petites choses et on peut aussi faire de la musique avec du papier, du carton, les plastiques, voilà, avec tout, quoi. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup.
Comment informer les participants, comment ils peuvent aussi écouter ça en streaming sur, un, sur le téléphone. Quoi. Peut-être qu'il faudrait afficher là.
On peut afficher la fréquence et puis l'adresse du site.
Oui. Ah oui, hein. Sinon
bah, tu fais quoi,
c'est une radio muette sinon.
C'est
une radio muette.
Une radio muette.
Déjà que t'as pas l'image.
Je vais faire ça, je vais à la radio, j'ai quelqu'un à 4 avec les infos, comme ça on peut. Et puis il ramène le vidéo de la star et puis on branche. Hein.
Mmh. Ok.
Merci madame.
Pas de quoi.
Product, I am a symbol of endless, hopeless, fruitless, aimless games. I'm a glossy package on the market shelf. My contents aren't fit for human consumption. I could tragically injure your perfect health. My ingredients will seize up your body's function. I'm the dirt that everyone walks on. I am the orphan nobody wants. I am the stair carpet everyone walks on. I am the leopard nobody wants to touch much. I am a sample. I am a scapegoat of useless, futureless, endless, mindless ideas. I'm a number on the paper you file away. I'm a portfolio you stick in the drawer. I'm the fool you try to scare when you say we know all about you, if that you can be sure. Well, I don't want your crazy system. I don't want to be on your files, your temptations. I try to resist them, 'cause I know what hides beneath your smiles. I am a topic, I am a subject for useless, futureless, endless, mindless debates. You think up ways that you can hide me from the naive eyes of your figurehead. But don't you find that it ain't easy? Wouldn't you love to see me dead? Your answer is to give. give me treatment for crying out when you give me pain. Leave me with no possible remnant. You poke your knives into my brain. I am an example, I'm no hero of the great, intelligent, magnificent human race. I'm part of the race that kills for possessions, part of the race that's wiping itself out. I'm part of the race that's got crazy obsessions, like locking people up, not letting them out. I hate the living dead and their work in factories. They go like sheep to their production lines. They live on illusions, don't face the realities. All they live for is that big blue sign. It says, Ford. I'm bored, bored, bored. I am a product, I am a symbol of endless, hopeless, fruitless, aimless games. I am a sample, I am a scapegoat of useless, futureless, endless, mindless ideas. I am a topic, I am a subject for useless, futureless, endless, mindless debates. I am an example, I'm no hero of the great, intelligent, magnificent human race.
À présent, dans cette émission consacrée au congrès de l'ICEM, qui se déroule actuellement à Bétheny, nous posons une question. Montessori, Freinet, le jeu est-il un travail ?
On va expliquer le jeu aux copains où on va être chargé d'être garant du jeu et que ça se passe bien, garant des règles. Parce que moi, quand j'introduis le jeu, au début, c'est moi qui suis garant, effectivement, et puis c'est le plus facile à faire. Juste mettre des jeux, les expliquer, que c'est les enfants qui jouent. Mais l'objectif, après, derrière, c'est de... Moi, j'ai beaucoup créé d'ateliers jeux où c'est les enfants qui se proposaient, qui connaissaient les règles des jeux et puis qui s'inscrivaient pour expliquer, être responsable d'un jeu. Et on faisait des ateliers jeux pour trois classes. C'est-à-dire qu'un enfant se mettait dans un espace, il y avait des lettres un petit peu partout, A, B, C, D, E, etc. pour chaque jeu. Et les autres classes formaient des groupes. Et puis les élèves de ma classe, ils faisaient les responsables, ils expliquaient, et les groupes tournaient. Comme ça, moi, c'était une espèce de... Quand moi j'ai créé ça, c'était une espèce de triche parce que c'est facile que les gamins s'occupent eux-mêmes. Comme ça, pour puis s'apprennent des choses eux-mêmes. Enfin, c'est un des rôles de l'école aussi, voir que c'est pas juste le prof qui sait. Ils savent aussi apprendre des choses. Ils pouvaient donc fonctionner sans moi. Et moi, je prenais la moitié de la classe pour faire de la menuiserie parce que c'était plus sympa.
Et oui, vous savez bien l'opposition qu'il y a eu, qu'il y a toujours d'ailleurs entre Montessori, le jeu, apprendre par le jeu, et Freinet, apprendre par le travail.
Oui, mais c'est là que la dimension de jeu et de travail, il faudrait peut-être la définir, parce que le jeu, l'objet jeu, oui, c'est cool, on peut apprendre avec, mais c'est une chose. Et pour moi, ça c'est, oui, c'est une chose. Et pour moi, le travail, c'est pas forcément le travail, écrire des choses. Et faire un jeu, ça peut être un travail. Créer un jeu, c'est un travail. Et la preuve, c'est que y a énormément de monde qui vit de ça dans le monde actuellement. Les éditeurs, les créateurs, et ça, les illustrateurs, illustratrices, beaucoup de monde. Et le jeu peut être un travail. Parce qu'on va l'expliquer. Être animateur de jeux de société, ça peut être un travail également. Créer un café-jeu. Et tout ça, le jeu, pour moi, est un... doit outrepasser l'objet. L'utilisation du jeu, en pédagogie Montessori, c'est le jeu qui va permettre à l'enfant d'apprendre. Donc c'est un objet qui permet à l'enfant d'avancer, mais l'enfant tout seul. Moi, je vois juste le jeu comme un moyen de faire avancer l'enfant et le groupe d'enfants lui-même dans une classe, parce que j'arrive pas à dissocier l'école du groupe, quoi. C'est ça qui me dérange dans la pédagogie Montessori, même si, en vrai, je suis en train de la détracter, mais j'y connais très peu de choses. Voilà.
Merci beaucoup, merci, et bonne continuation. Bye à toi.
Bonjour à toi. Je vois que tu as un enfant, là, tout petit.
Ouais, il y a le petit Sohan qui est présent pour son premier congrès.
Et voilà. Qu'est-ce que tu penses que peut lui apporter la pédagogie Freinet à cet enfant?
Voilà, tout de suite, là.
Oui, tout de suite.
J'en sais rien, là. Je ne sais pas trop pour l'instant, à 7 mois, mais bon, de l'autonomie, voilà. Il fait plein de trucs déjà tout seul. Il déchire des papiers, il mange des trucs tout seul. Voilà, il tâtonne, c'est déjà le tâtonnement.
Oui, j'espère qu'effectivement, tu observes ton enfant je pense qu'un pédagogue freinet a une autre approche de la petite enfance.
Ouais, c'est possible. Bah, en tout cas, nous, on a la chance que la maman et le papa sont pédagogues freinet, donc du coup... On essaye de travailler là-dessus. Ouais. Il fait plus de choses tout seul, c'est sûr. On le laisse pas mal gambader. Il essaie de manger tout seul lui-même, les morceaux, les... quoi d'autre bah, il vient beaucoup avec nous aussi. Il n'est pas toujours dans un lit. Et il a aussi un lit tout seul au sol où on essaye de le faire... Il se couche un peu de façon autonome, même si les nuits, c'est pas simple encore, là, à 7 mois. Mais en effet, il y a une volonté quand même de respecter un petit peu des périodes où il a plus de choix, on va dire, dans ce qu'on va lui proposer. Quoi.
Et comment envisages-tu justement le passage justement au fameux nom ouais. Pour plus tard, quoi?
Ouais, bah on va le prendre comme il fera. On peut pas trop. Je pense que moi c'est mon premier, donc c'est un petit peu dur à dire, même si on a toujours lu des choses sur les enfants et la petite enfance. Mais le nom, bah, on va essayer de prendre pourquoi il dit non et puis essayer de résoudre ça. Mais bon, c'est, en même temps, c'est le passage obligatoire. Il y a un enfant, donc je pense que c'est normal. On va voir. On va voir. Un bébé chou. Alors.
Et on peut te demander quelle classe tu as?
Ouais, bah, moi j'ai des CE2, CM1, CM2. Donc c'est un peu plus grand.
Et dans quelle région?
À Saint-Denis, dans le 93.
Dans le 93. Ah, voilà, même pas dans le rural alors.
Ouais, on a réussi à obtenir des classes à triple niveau. Après, c'est la seule dans mon école. Mais la maternelle est toute à triple niveau. On a réussi à faire toute la maternelle à triple niveau parce qu'on est une école primaire. Et ils arrivent à faire triple niveau sur toute la mater. Et voilà, moi j'ai un CE2, CM1, CM2. Mais avec les réformes, on a du mal à le faire sur le CP, sur un CE2. On n'y arrive pas trop à cause des classes à 12 ou 13, là, vu qu'on est en REP. Donc du coup, voilà, on se fait un petit peu embêter sur la structure. Mais bon, on a des classes réduites, donc c'est pas mal aussi. Ouais.